Vous savez, quand on tombe sur une vieille carte postale, on a un peu l'impression de tenir un fantôme entre ses mains.
C'est une belle image.
Ce n'est pas juste un paysage figé. C'est une fenêtre ouverte sur un moment de vie, sur une joie collective qui nous semble à la fois familière et en même temps complètement lointaine.
C'est exactement cette impression qu'on a en parcourant notre source du jour. Il s'agit du bulletin numéro 61 du Carto Club Avronais.
D'accord.
C'est une publication de passionnés, elle date de 2015, et elle est entièrement dédiée aux jours de fête en Aveyron. Et franchement, c'est une mine d'or d'images et de récits. On plonge littéralement dans les traditions du XXe siècle.
Et j'ai vu que c'était un vrai travail d'équipe, ce bulletin. Notre exploration va d'abord suivre le fil des saisons, c'est ça ?
Oui, grâce à l'article de fond de Gilbert Augour, qui est le président du club. Il a fait un travail de structuration vraiment remarquable.
D'accord.
Et ensuite, on pourra zoomer sur des thèmes plus spécifiques. Il y a les fêtes liées à l'eau, par exemple, qui sont explorées par Jean-Pierre Crume.
Et j'ai vu aussi un article sur Milou.
Oui, sur les traditions industrielles de Milou, racontées par Pierre Costecalde. Et il faut mentionner le rédacteur en chef, Guy Mazard, qui a mis tout ça en page.
Notre mission, donc si je résume, c'est un peu de décortiquer ces images pour comprendre ce qu'elles nous racontent. Au-delà de l'anecdote, comment est-ce que ces fêtes rythment la vie ?
Exactement. Qu'est-ce qu'elles révèlent des valeurs, des tensions et de la cohésion d'une société rurale qui était en pleine transformation ?
Parfait. Alors, suivons Gilbert Regour. Commençons avec le cycle de la nature. Le printemps arrive, la lumière revient, j'imagine que c'est le grand coup d'envoi des festivités.
Absolument. La première grande fête qui vient, disons, casser la routine de l'hiver, c'est le carnaval. C'est le moment où tout est permis avant la longue période de privation du carême.
Et pourtant, les cartes postales sont assez rares sur ce sujet en Aveyron, non ?
Oui, c'est ça qui est curieux. Mais celles qu'on a, notamment de Saint-Romy de Tarn, sont incroyables.
Ah oui, je les ai vues. On voit des gens déguisés en pierrot lunaire, par exemple. Mais ce qui me frappe, c'est leur sérieux. Ils posent face à l'objectif avec une gravité
presque présidentielle.
Le contraste est saisissant.
Mais c'est toute la magie du carnaval. Ce sérieux apparent, ça ne veut pas dire qu'ils ne s'amusent pas. C'est la fonction de ce qu'on appelle le monde à l'envers.
Une sorte de soupape de sécurité.
Précisément. Pour quelques jours, on inverse les rôles, on se moque des puissants, on tourne en dérision les conventions sociales. En se moquant ensemble de l'ordre établi, et bien paradoxalement, on le renforce pour le reste de l'année.
Et en parlant de traditions un peu folles, il y a un rituel à Saint-Rome de Tarn qui dépasse tout, la fête des cornards le lundi de Pâques.
Ah oui.
On met en place un faux tribunal, le tribunal de la cornerie, pour juger les jeunes mariés de l'année. Et le motif d'accusation, c'est l'infidélité.
Supposée.
De leur femme.
On imagine la scène.
Le verdict, il est sans appel. Ils sont déclarés cornards, on leur remet une immense paire de cornes et la foule les balance cul par-dessus tête. C'est incroyable. Ça semble à la fois drôle et terriblement humiliant.
C'est toute l'ambiguïté de ces rituels. Bien sûr qu'il y a une part d'humiliation, mais elle est collective et elle est codifiée. En acceptant ce jugement, le nouveau marié prouve en fait qu'il accepte les règles de la communauté.
Y compris le fait que sa vie privée n'est plus tout à fait privée.
Voilà. C'est une forme d'intégration par la dérision. Une manière de lui dire « Bienvenue au club. Maintenant, tu es vraiment l'un des nôtres. »
Le printemps s'achève ensuite avec Pâques, qui marque la fin du carême et le retour à l'abondance. Il y a des images très fortes là-dessus.
Je pense au bœuf de Pâques.
Oui, on voit à la Calème un magnifique bœuf de race Aubrac, tout décoré de rubans qu'on promène fièrement dans le village avant de l'abattre. Le symbole est clair, hein, la période de jeûne est terminée.
On sort donc du printemps avec cette image très forte. J'imagine que l'été, avec le beau temps, l'ambiance devait encore monter d'un cran.
Ah oui, l'été, c'est l'explosion des fêtes en plein heure. D'un côté, il y a le côté très solennel des processions religieuses, comme la fête Dieu. Les photos de Sainte-Côme sont fascinantes.
On dirait une mise en scène.
Complètement. Une mise en scène de l'ordre social. Chaque corps de métier, chaque confrérie, les enfants, les pompiers, tout le monde a sa place.
C'est la communauté qui se représente elle-même dans son organisation idéale, à la fois religieuse et civique.
Mais la fête, c'est aussi beaucoup plus simple et gourmand. À Najac, pour la Saint-Barthélemy, il y a la tradition de la fouasse géante. Attendez, les chiffres sont dingues. 2 mètres de long, 45 kilos.
45 kilos ?
Mais comment est-ce qu'on fabrique et surtout comment on transporte un gâteau pareil ? Ça devait être un événement en soi.
Le partage de la nourriture, c'est le cœur de la fête. Ça crée du lien, ça symbolise la prospérité. Cette fois, c'est l'abondance partagée, quoi.
Et bien sûr, il y a les jeux. Les images de ces fêtes de village sont pleines de vie. On voit le fameux mâtre de cocagne à la gueule, ce poteau tout savonné où il faut grimper pour décrocher des lots.
Un grand classique.
Ou encore, à Aubrac, ce jeu de ciseaux où une femme, les yeux bandés, essaye de couper une ficelle. On sent la concentration, les rires autour. L'ambiance devait être formidable.
Ben, ces jeux, c'est le ciment de la communauté. On rivalise gentiment, on rit de soi-même, on applaudit les autres. C'est dans ces moments-là que les liens sociaux se tissent et se resserrent.
Mais la fête n'est pas toujours bienveillante. Elle peut aussi servir de défouloir collectif et de rappel à l'ordre, et de manière assez brutale. Je pense au charivari.
Ah, le charivari.
Il y a cet exemple fascinant à Clairvaux, en 1907, organisé pour un mariage jugé mal assorti.
C'est-à-dire une différence d'âge, un remariage.
On ne sait pas les détails. Une différence d'âge trop grande, un remariage trop rapide, peut-être. Quoi qu'il en soit, la communauté désapprouve. Alors, un soir, un cortège s'organise avec des déguisements, des tambours, des casseroles.
Et ils font un vacarme pas possible sous les fenêtres du couple.
Exactement. Jusqu'à ce que le couple paye sa rançon, en général en offrant à boire à tout le monde.
C'est fascinant parce que ça nous semble barbare aujourd'hui, mais c'était une forme de justice populaire. Au lieu d'une loi formelle, c'est la communauté elle-même qui dit « Attention, les règles du mariage sont importantes pour nous tous ».
La vie privée n'existait pas vraiment comme on l'entend maintenant.
Pas du tout. Le bruit, la moquerie, c'est un outil pour réaffirmer la norme collective, de manière très visible.
On voit aussi comment la fête peut être récupérée à des fins plus politiques, pour exalter le patriotisme. Les photos de l'inauguration du monument de la Victoire à Rodez en 1925 sont très parlantes. La fête devient une cérémonie civique.
Et puis l'hiver arrive, et avec lui, le ton change. On passe à des fêtes plus intimes ou plus graves.
Oui, c'est frappant avec la commémoration du 11 novembre. Il y a une photo de la cérémonie de 1938 à Rodez qui est particulièrement poignante. On y voit le préfet de l'Aveyron, un certain Jean Moulin.
Le contexte est essentiel. Novembre 1938. On est quelques semaines après les accords de Munich, la guerre menace. Cette commémoration de la fin de la Première Guerre mondiale prend une dimension tragique.
C'est une photo qui donne le frisson, quand on sait qui il deviendra et ce qui attend la France.
La fête, ici, devient tragiquement prémonitoire.
Dans un registre plus léger, l'hiver, c'est aussi la Sainte-Catherine, le 25 novembre, la fête des Catherinettes.
Les jeunes femmes de 25 ans qui ne sont pas encore mariées.
C'est ça. Et au dos d'une carte postale de l'époque, on peut lire un message assez direct. « Ma chère Charlotte, comme le dit la carte, il est temps. Ton ami qui pense à toi. » Ça ne rigolait pas avec la pression sociale, hein ?
Non, le message est clair. Cette fête sous ses airs joyeux, avec les chapeaux jaunes et verts, c'est un marqueur très puissant de la pression au mariage qui pesait sur les femmes.
Et l'année se termine avec Noël, une fête très familiale, centrée sur les enfants, le soulier dans la cheminée, et puis le jour de l'an. Et là, on retrouve l'humour aveyronnais.
Avec les census du jour de l'an.
Oui, ces cartes postales satiriques qui se moquent du facteur ou de la concierge qui viennent réclamer leurs étrennes avec un peu trop d'insistance.
Ce grand calendrier que Gilbert Regour a si bien documenté nous donne une vue d'ensemble. Mais le bulletin nous propose aussi de zoomer sur des thèmes qui traversent les saisons.
Oui, et on commence avec un sujet surprenant, celui de Jean-Pierre Crume, les fêtes de l'eau. Comment un élément aussi simple que l'eau peut devenir le cœur de la fête.
L'exemple le plus spectaculaire, ce sont les joutes nautiques à Penchaud, sur la rivière Lot.
On est loin de Sète, pourtant.
Et c'est ça qui est intéressant. Cette tradition n'est pas du tout locale. Elle a été importée au XIXe siècle par des ouvriers verriers venus de Givors, près de Lyon, pour travailler dans une nouvelle usine.
Ils ont donc ramené leur tradition dans leur valise.
Ils ont recréé leur joute, la Givordine, avec des lances de 6 mètres et ils ont même fondé leur société, la Joyeuse de Penchaud.
C'est un exemple parfait de transfert culturel lié à une migration industrielle. Ça montre que la culture ouvrière, ce n'est pas que le travail et les revendications.
C'est aussi des loisirs, des sociabilités qui voyagent.
Exactement.
Des sociabilités qui voyagent avec les gens et qui s'implantent dans de nouveaux territoires.
Là, la fête est complètement liée à l'identité de la ville, là, la ganterie.
Oui, avant 1914, à la Belle Époque, Milou célèbre sa prospérité. Il y a même le couronnement d'une reine de la ganterie.
La fête est un miroir, en fait.
Exactement. Elle reflète la fierté d'une ville pour son industrie, son savoir-faire.
Et cette fierté, elle s'exprime aussi par une fascination pour la modernité. Milou organise des fêtes de l'aviation en 1911 et 1913. Des milliers de personnes viennent voir des pionniers de l'air faire des acrobaties.
c'est la célébration du progrès technique. Mais le bulletin ne fait pas l'impasse sur les périodes plus sombres, et c'est ce qui le rend si précieux.
En effet, Pierre Costecalde nous montre aussi comment la fête a pu être instrumentalisée. Il décrit de façon très factuelle la fête de Jeanne d'Arc du 11 mai 1941 sous le régime de Vichy.
Il y a une carte photo.
Oui, une carte photo qui montre des écoliers défilant sous des oriflammes avec la devise « Travail, famille, patrie et la Francisque ». L'image est glaciale.
C'est un exemple parfait d'instrumentalisation. Le rituel festif, qui est normalement un moment de cohésion spontanée, est ici détourné pour devenir un outil de propagande. On utilise les enfants, les symboles, pour diffuser l'idéologie du régime.
La fête n'est plus une expression de la communauté,
mais un ordre qui lui est imposé.
Et après la guerre, quelque chose semble s'être brisé. Pierre Costecalde utilise une phrase très forte, le ressort s'était définitivement cassé.
Les fêtes changent de nature.
Oui. Il prend l'exemple de la foire exposition de 1969. Ce n'est plus une fête populaire traditionnelle, mais un grand spectacle avec des vedettes de la chanson, comme Marcel Amon ou Rika Zaraï.
C'est une évolution majeure. On passe d'une fête où la communauté est actrice, où tout le monde participe, à une fête où la communauté devient spectatrice d'un spectacle produit pour elle.
C'est le début de l'industrie du divertissement.
Qui remplace peu à peu les rituels collectifs.
Au final, en refermant ce bulletin, on réalise que ces fêtes étaient bien plus que de simples distractions. C'était des rouages essentiels de la vie sociale. Elles marquaient le temps, elles soudaient les gens, libéraient les tensions, affirmaient des identités.
Absolument. Chaque carte postale est la trace d'un rituel qui avait un sens profond. C'est un témoignage exceptionnel sur une vie collective qui, pour une grande part, n'existe plus sous cette forme. Et ça nous amène à une question pour aujourd'hui.
Laquelle ?
Ce bulletin nous montre les rituels collectifs d'il y a un siècle. Mais aujourd'hui, quelles sont nos fêtes votives, nos carnavals, nos charivaris ? Comment nos rituels, qu'ils se déroulent dans la rue ou sur les réseaux sociaux, ont-ils évolué ? Et que révèlent-ils de nos propres angoisses et de nos aspirations collectives ?